Écoutez, frères et sœurs, la lecture de la Bible, j'ai retenu trois textes concernant la vie éternelle et la résurrection. Tout d'abord, le psaume 22, la finale de psaume, les versets 28 à 32. Ce psaume qui commence par « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui est la prière de Jésus sur la croix. Que les peuples les plus lointains se souviennent de l'Éternel et reviennent à lui. Que les familles de toutes les nations s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Car l'Éternel et roi, c'est lui qui règne sur les nations. Devant lui s'inclineront même ceux qui dorment sous la terre. Devant lui s'agenouilleront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui perdent la vie. Leurs descendants le serviront. On parlera de l'Éternel. À la nouvelle génération, on racontera à ceux qui vont naître ce qu'il a fait pour sauver les siens. Puis deux textes concernant l'apôtre Paul et la résurrection. D'abord, dans le fameux discours de Paul à Athènes, acte 17, le livre des Actes est en fait l'évangile de Luc, puisqu'il le prolonge. Acte 17, versets 1 à 21, et puis la conclusion, 29 à 33. Pendant que Paul attendait Silas et Timothée à Athènes, il était profondément indigné de voir à quel point cette ville était pleine d'idoles. Il discutait dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui adoraient Dieu et sur la place publique chaque jour avec les gens qu'il pouvait y rencontrer, quelques maîtres, épicuriens et stoïciens, se mirent aussi à parler avec lui. Les uns demandaient « Que veut dire ce bavard ?» Il semble annoncer des dieux étrangers, déclaraient d'autres, en entendant Paul prêcher Jésus et la résurrection. Ils le prirent alors avec eux, le menèrent devant le conseil de l'Aréopage et lui dirent « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles ? Car tu nous fais entendre des choses étranges et nous aimerions savoir ce qu'elles signifient. » Tous les Athéniens, en effet, et les étrangers qui vivaient parmi eux, passaient leur temps uniquement à dire ou écouter les dernières nouveautés. Enfin, la conclusion du discours de Paul à ses philosophes. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or, d'argent ou de pierre, produite par l'art et l'imagination de l'homme. Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes étaient ignorants, mais il appelle maintenant tous les hommes, en tout lieu, à changer de comportement. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve en le ramenant de la mort à la vie. Lorsqu'ils entendirent Paul parler de résurrection, Les uns se moquèrent de lui, les autres dirent « Nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois ». C'est ainsi que Paul les quitta. Et puis dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 3 à 11. Nous servons Dieu par son Esprit, nous plaçons notre fierté en Jésus-Christ et nous ne mettons pas notre confiance dans des pratiques humaines. Il fait ici allusion à la circoncision. Pourtant, je pourrais aussi mettre ma confiance dans ces pratiques. Si quelqu'un pense être en sûreté grâce à des pratiques humaines, j'ai bien plus de raisons que lui de le penser. J'ai été circoncis quand j'avais une semaine. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu de pure race. En ce qui concerne la pratique de la loi juive, j'étais pharisien et j'étais si zélé que je persécutais l'Église. En ce qui concerne la recherche d'une vie juste par l'obéissance aux commandements de la loi, on ne pouvait rien me reprocher. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et ce n'est pas seulement ces qualités, mais tout avantage que je considère comme une perte à cause de ce bien tellement supérieur, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis débarrassé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à mon obéissance à la loi. C'est par la foi au Christ que je suis juste. Grâce à cette possibilité d'être juste qui vient de Dieu et que Dieu accorde à celui qui croit. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, pour parvenir, si je peux, à la résurrection d'entre les morts. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à chanter dans le recueil « Louanges et prières » le cantique numéro 163, la première, la deuxième et la troisième strophe. Éternel, nous aspirons à la sérénité. Nous avons besoin de quitter nos soucis et d'être libérés de nos tensions, de recevoir la paix que tu apportes à nos vies. Éternel, nous venons nous reposer en toi et en ta parole, sainte, crédible, fidèle. Et ta parole apaisera notre soif de vérité, de lumière, de vie vraie. Frères et sœurs, j'aimerais consacrer la prédication de ce matin à cette affirmation surprenante de l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens au chapitre 3 et au verset 11, après avoir évoqué son désir d'union à Jésus-Christ, il affirme qu'il vit cela pour parvenir, si je peux, à la résurrection d'entre les morts. Je vous propose trois étapes. La première pourrait s'intituler « Sola fide », par la foi seule. La deuxième « Sola gratia », par la grâce seule. Et la troisième « Sola scriptura », l'écriture seule. Dans ce chapitre, Paul rappelle, dans une sorte de fiche d'identité qui est la plus développée qu'il ait jamais apportée, qu'il a été et qu'il est un juif fidèle, fidèle à la loi, qu'il observait de manière rigoureuse, même s'il estime que cette observance doit souvent être abandonné en Jésus-Christ. Mais voyez-vous, Paul, pour nous, sort de ce cadre, de cette fiche d'identité, parce qu'il a marqué toute l'histoire de la pensée chrétienne, toute l'histoire de la pensée religieuse, et même au-delà, toute l'histoire de la pensée. En 1998, par exemple, Alain Badiou, professeur à Normale supérieure, professeur de philosophie, tout à fait étranger à toute perspective de la foi, publiait un livre exigeant et qui fit grand bruit, intitulé « Saint Paul, la fondation de l'universalisme ». Et ce livre vient d'ailleurs d'être réédité aux presses universitaires de France. Alors je vous propose trois remarques dans cette première étape concernant Paul, plus particulièrement en référence à ce chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens. Paul n'est pas le dogmaticien doctrinaire que l'on décrit et que l'on décrit parfois, même s'il est partisan d'une théologie de la croix que nous ne pouvons pas toujours faire nôtre et qui a donné lieu dans l'histoire à des doctrines bétonnées de rédemption, d'expiation, de satisfaction, cela signifiant, pour simplifier, qu'il fallait que le sang de Jésus coulât pour que Dieu puisse pardonner aux hommes. Eh bien, Paul est un penseur qui a su placer au sommet de sa pensée non pas la doctrine, mais la pratique, l'éthique. On se rappelle le fameux hymne magnifique de 1 Corinthiens 13, hymne poétique, lyrique, conclut par ces mots, et maintenant ces trois réalités demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Qui a dit de Paul qu'il a établi à jamais la suprématie de l'éthique dans la religion, de l'éthique et non pas de la dogmatique, ce qui nous va bien? Eh bien, c'est Albert Schweitzer. D'autre part, il faut signaler que Paul a pensé contre lui-même et que Paul a pensé contre des témoins éminents de son temps, avec courage, s'opposant, et ce n'était pas n'importe qui, entre autres, à l'apôtre Pierre, qui voulait imposer des pratiques juives aux convertis au christianisme qui venaient du paganisme. Et Paul, dans ce débat où il a tensé fortement l'apôtre Pierre, a remporté la victoire. Albert Schweitzer, encore lui, écrit de Paul qu'il est le saint patron des penseurs libres et qu'il a été le premier défenseur des droits de la pensée dans le christianisme. Quand on sait combien cette pensée libre a été contrariée, bridée, condamné dans l'histoire du christianisme à travers des inquisitions doctrinales, intellectuelles, on comprend l'importance de ce message de Paul, qui est un message de pensée libre. Deuxième remarque concernant Paul, non seulement il n'est pas le dogmaticien qu'on voudrait voir en lui, parce qu'il a mis au sommet de la pensée l'éthique, mais parce qu'il est essentiellement un mystique. Sa mystique est une mystique d'union avec Jésus-Christ. Il parle beaucoup plus de Jésus-Christ vivant aujourd'hui que de Jésus de Nazareth, de Jésus de l'histoire. Une mystique d'union construite sur cette tension dialectique: Jésus est en nous et nous sommes en lui. Et Albert Schweitzer, qui a consacré deux gros livres à l'apôtre Paul, intitule l'un d'entre eux « La mystique de l'apôtre Paul ». Et cette mystique triomphe dans la formule bien connue de son épître aux Galates: « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Et là, dans ce chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens, où sans cesse il s'inscrit dans cette perspective mystique, il nous dit qu'il veut être parfaitement uni à Jésus. Une mystique d'union à Jésus et non pas à Dieu. Ce qui lui aurait paru probablement présomptueux, blasphématoire, voire impossible. Enfin, bien sûr, l'apôtre Paul, et c'est ma troisième remarque, est l'homme du sola fide. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la foi ou à travers la foi en Dieu, d'où le fait que Paul, dans ce chapitre 3, nous l'avons entendu, écrit « Je n'ai plus la prétention d'être juste ». Juste, ça veut dire rendu juste, sauvé. Grâce à mon obéissance à la loi, il y a une possibilité, ajoute-t-il, d'être juste qui vient de Dieu. Faut-il rappeler l'expérience libératrice de Luther, le moine Augustin au XVIe siècle, grand réformateur, qui, terrorisé par l'enfer, par la peur de la mort, avait l'impression de n'en jamais faire assez pour obtenir le salut, pour mériter ce salut. Et qui, professeur d'Écriture sainte, d'exégèse, découvre l'apôtre Paul, ses épîtres, et entend là ce message du salut par la grâce. Bien sûr, pour Paul, comme pour Luther, les œuvres sont encore importantes, le bien que nous pouvons faire, d'où ce sommet, je l'ai dit, de l'éthique. Mais nous ne faisons pas du bien pour être aimés de Dieu, mais parce que nous le sommes. Ce parce que c'est cela, la grâce. Alors, deuxième étape, la grâce. Le 19 novembre 2009, il y a donc 5 mois exactement de cela, lisant, comme je le fais quotidiennement, les paroles et textes de chaque jour, ce petit recueil, je tombe sur ce verset de l'apôtre Paul qui, après avoir évoqué son désir de communion avec Jésus, affirme « Pour parvenir, si je peux, à la résurrection d'entre les morts. Si je peux !» Mon sang n'a fait qu'un tour. S'écroulait d'un coup tout le radicalisme du sola gratia que je croyais trouver chez Paul, et même tout un sola gratia chanté par la Réforme. Parce que n'oublions pas que c'est devant la mort et devant l'inconnu de la vie éternelle que le sola gratia prend tout son relief et toute sa force. Là, il n'est plus question de nos mérites. Il n'est pas question de « si je peux ». Tout dépend de Dieu et de Dieu seul. Nous n'y pouvons rien. Il n'y a aucun « si je peux » pour accéder à la vie éternelle. D'où le fait décisif que chez les protestants, le service funèbre n'est pas fait pour le mort, pour lui permettre d'accéder sans encombre à Dieu et à la vie éternelle à travers des prières, des intercessions et des rites, mais il est fait pour les vivants, pour les consoler, pour les accompagner, pour prêcher l'Évangile. À cette heure de la mort, notre réalité profonde n'est pas en nous-mêmes, ne dépend pas de nous, il n'y a aucun « si je peux », mais au contraire, résumant tous les principes du protestantisme, un « à Dieu seul la gloire ». Si je peux. Alors je me suis précipité sur des traductions, me disant qu'il y avait là probablement une erreur. Et j'ai découvert plusieurs traductions qui disaient « si je peux ». D'autres adoucissait un peu les choses en disant « si possible ». avec un doute sur la vie éternelle. C'est intéressant de voir que la Bible de Louis II, dans sa première version, la sienne, dit « si je peux », mais que dans les révisions successives de cette traduction, très gênée probablement par ce « si je peux », on a modulé la chose en mettant « si possible ». Et puis, dans les Bibles qui ont des notes, alors les notes devant ce « si je peux » sont savoureuses, très embarrassées. On vous dit « Paul dit que, mais il ne veut pas dire que, parce qu'il pense que, mais il ne pense pas que, mais c'est cela. » Si je peux. J'ai même été voir la traduction de Luther, cours bien connu et admirable. Deuxième surprise, il n'y a pas chez Luther de « si je peux » ou de « si possible ». Rien du tout. Donc, il ne traduit pas l'équivalent grec, il le saute, probablement très gêné, lui le champion du Sola Gratia, par cette idée d'un « si je peux ». Luther, là, il enlève, ailleurs vous savez qu'il a rajouté. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, verset 28, où on nous dit que le juste est rendu juste par la foi, Luther ajoute par la foi seulement, par la foi seule, ça n'est pas dans le texte grec. Et cela a fait couler beaucoup d'encre, vous vous en doutez, entre les protestants et les catholiques, Luther estimant qu'en ajoutant ce mot, par la foi seule, seulement, il était fidèle à l'idée fondamentale de Paul dans ce texte. Toute traduction est toujours une interprétation. Alors bien sûr, ayant finalement décidé de consacrer la prédication de ce matin à ce texte litigieux et gênant, j'ai fait ce que l'on fait toujours dans ces cas-là, j'ai été voir le texte grec. Troisième surprise, il n'y a pas dans le grec de « si je peux » ou de « si possible ». Il y a un petit mot de trois lettres, « pos ». Pose suivi d'un point d'interrogation veut dire « comment ?» Et sans point d'interrogation, c'est le cas ici, veut dire « d'une certaine manière, en quelque manière ». C'est même ainsi que traduit le gros dictionnaire classique Bailly, grec-français de plus de 2200 pages. Et j'ai consulté plus de 20 traductions. J'ai découvert seulement, il y en a probablement d'autres, trois traductions qui traduisent effectivement « en quelque manière ». Il y a d'abord la traduction de Maurice Carrez, qui fut mon collègue, professeur de grec et d'hébreu à la faculté de théologie protestante de Paris. Il y a la traduction qui se veut très littérale, justement, de Darby. Darby, à l'époque du réveil, a traduit toute la Bible, d'une part en anglais, d'autre part en français. Darby, qui est à l'origine de cette dissidence, les darbistes, qui a eu un certain succès en Suisse romande. Ben, Darby traduit en quelque manière. Et puis, chose intéressante, la Vulgate. La traduction en latin de la Bible par saint Jérôme, contemporain en gros de saint Augustin, qui est devenue la traduction officielle, pour ne pas dire parfois imposée, de l'Église catholique romaine. La Vulgate dit « quo modo ».« Quo modo », de quelque manière. Mais vous comprenez que cela change tout, parce que le doute ne porte plus véritablement sur « si je peux ressusciter », mais sur les modalités de cette résurrection, sur le comment de cette résurrection. Et on pourrait traduire « afin de parvenir, comment, de quelque manière que ce soit, à la vie éternelle ». C'est tout différent. Alors, troisième étape, le sola scriptura. L'apôtre Paul a souvent évoqué la résurrection. Dans sa première épître aux Thessaloniciens, qui est le plus ancien écrit du Nouveau Testament, parce que cette lettre a été écrite avant qu'on mette les évangiles par écrit, qui circulaient sous forme orale en empruntant à différentes traductions et traditions. Dans son épître aux Thessaloniciens, Paul évoque la résurrection en termes qui nous paraissent complètement fantasmagoriques aujourd'hui. Il dit qu'à l'annonce de l'archange, retentira la trompette de Dieu et que le Christ alors reviendra sur les nuées du ciel, entouré des morts rendus à la vie, pour aller rejoindre les vivants qui sont encore vivants sur cette terre, qui ne sont pas morts, et leur accorder à eux aussi le pouvoir de la résurrection. Or, Paul n'a pas toujours écrit ainsi. Paul a beaucoup évolué dans sa représentation de la résurrection. D'ailleurs, c'est aussi le cas, mais c'est un autre sujet, dans sa représentation du royaume de Dieu. Marie-Émile Boismard, un dominicain, un exégète remarquable, qui a été entre autres professeur à l'école biblique de Jérusalem, publiait en 1995 un livre intitulé « Faut-il encore parler de résurrection ?» Il mettait le mot « résurrection » entre guillemets. Paul a évolué. Il a modifié sa pensée à ce sujet. D'abord, il a affirmé dans une manière de comprendre l'être humain psychosomatique, typique du sémitisme, il a affirmé que nous mourons corps et âme et que nous ressuscitons corps et âme. Et puis ensuite, parce qu'il s'adressait de plus en plus à des chrétiens d'origine païenne et non pas d'origine juive, qui ne pouvaient rien comprendre, comme le montre le passage des Actes des Apôtres que je relisais tout à l'heure, à l'idée de la résurrection corps et âme, il a affirmé l'immortalité de l'âme avec une concession peu claire, faite à l'idée que cette âme rejoindra auprès de Dieu une demeure, un corps spirituel et glorieux. La pensée de Paul n'est donc pas monolithique. Il n'y a pas là une dogmatique systématique, mais des écrits dans ses lettres contextuels de circonstances, et Paul change ce qu'il dit en fonction de ses auditeurs. Il le reconnaît d'ailleurs. Dans la première épître aux Corinthiens, il affirme, c'est au chapitre 9, qu'il s'est fait tout à tous, tout à tous. Et c'est à tort qu'on veut procéder à une harmonisation contraignante de la pensée de Paul. Il y a chez lui, mais on pourrait faire la même démonstration avec les évangiles, il y a chez lui une offre diversifiée concernant la vie éternelle. Il y a des textes qui parlent d'une résurrection corps et âme. Est-ce que vraiment nous pouvons nous accorder à une idée pareille quand nous écoutons la Weltanschauung, la conception du monde actuelle? Il y a des textes qui parlent de l'immortalité de l'âme, reçue de Dieu, idée qui a traversé les siècles, via Platon essentiellement. Et puis, il y a aussi cette position-là où finalement Paul donne l'impression qu'il ne sait plus très bien. Et il dit, pour parvenir, comment, de quelque manière que ce soit, à la résurrection des morts. Donc, libre à nous de dire cette vie éternelle de manière diversifiée, c'est là notre liberté de conscience. Sola scriptura? Pas du tout. L'écriture seule. Bien sûr, au XVIe siècle, les réformateurs pouvaient dire l'écriture seule. Il n'y avait pas encore d'exégèse historico-critique. On insistait sur l'unité de la Bible tout entière. Alors qu'après des années et des années, on sait bien qu'il n'y a pas de sola scriptura, une écriture seule dans la Bible. Il y a des croyances très différentes et parfois opposées concernant Dieu, concernant Jésus, concernant le salut, concernant l'Église, concernant les sacrements, concernant la vie éternelle. Sola scriptura. Non, non. On ne devrait plus dire « je vais lire l'Écriture », mais on devrait dire « je vais lire les Écritures ». Sola scriptura. Et nous savons bien qu'il y a même dans la Bible des pages insoutenables, dont on voudrait bien qu'elles n'y soient pas. Sola scriptura. Non. Plusieurs Écritures, mais, et c'est ce que je crois, il y a une seule parole de Dieu, celle d'un Dieu d'amour, celle d'un Dieu de vie, en qui, pour aujourd'hui et pour demain, se trouve notre réalité profonde et ultime. C'est ce que je crois. Amen.